Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que nous nous sommes concertés et nous allons inverser l'ordre. C'est-à-dire écouter, bien sûr, Vincent de Goleschak dans l'entretien qui a été réalisé avec Christophe Niewiadomski. Ensuite, Christophe Niewiadomski, et qui notamment donnera, entre autres, des extraits de récits qui viendront dans la continuité, dans le prolongement de l'interview qui a été réalisée avec Vincent de Goleschak, et puis ensuite Yann Desbrosses en tant que thérapeute. Voilà, on ouvre des perspectives. Nous y allons.
Alors je vais prendre la suite en commençant par partager qu'il me semble que depuis des décennies, on a entendu des informations préoccupantes sur l'état de l'écosystème, du vivant et du climat, et que bien souvent il y avait des discussions qui suivaient avec vraiment une querelle parfois entre ceux qui étaient anxieux et qui disaient « mais c'est terrible, il faut faire quelque chose », et puis ceux qui étaient plutôt sceptiques en disant « bon, tu parles de tes peurs à toi, là, de toute façon, rien n'est prouvé, attendons, on verra bien ». Et puis, depuis les inondations fortes et les records de chaleur qu'ont connu l'Europe au cours des deux dernières années, il me semble que l'opinion publique européenne a évolué. Et depuis deux ans, on entend le terme d'éco-anxiété s'inviter fortement dans les médias. Et cette notion d'éco-anxiété, en fait, elle interroge vraiment les émotions qui nous traversent quand on est spectateur de la réalité des dérèglements et des destructions en cours et qu'on commence à penser ce qui nous attend, puisque apparemment ce n'est que le début. Voilà. Et donc on peut se demander si aujourd'hui c'est adapté de craindre un effondrement. Est-ce que ça parle finalement des angoisses de l'individu, ou est-ce que ça parle de la réalité d'une situation collective? Et là on rejoint le propos de Vincent de Goleschak et ton propos, Christophe, sur interroger finalement quand la souffrance est là, est-ce qu'elle appartient à l'individu ou est-ce qu'elle appartient au système? Et on va voir bien sûr que c'est pas si simple, ça dépend des situations, c'est plus complexe. Et à partir de mon expérience de praticien en psychothérapie qui accompagne des personnes qui viennent me voir parce que elles sont travaillées par des émotions perturbantes, eh bien je vais vous proposer qu'on interroge ensemble toutes ces émotions là, comme par exemple peur, tristesse, colère, culpabilité, honte, toutes ces émotions qui peuvent nous traverser quand on est témoin de ce qui se passe entre les humains et l'écosystème et le monde vivant. Est-ce qu'elles sont plutôt comme une perturbation qui nous empêche d'évoluer, ou est-ce qu'elles sont plutôt une énergie qui peut nous servir à aller de l'avant? Est-ce qu'elles sont plutôt pathologiques parce qu'en fait on est touché dans nos propres failles, ou est-ce qu'elles sont plutôt normales, adaptées, ces émotions qu'on regroupe sous le terme d'éco-anxiété? Alors, dans un premier temps, on pourrait essayer de caractériser un petit peu mieux ce que c'est ce terme d'éco-anxiété. On va le différencier de ce que le philosophe australien Glenn Albrecht a appelé à partir de 2003 « solastalgie ». Solastalgie, c'est un néologisme qu'il a créé pour parler de la souffrance que l'on peut ressentir quand, par exemple, un paysage naturel qui nous fait du bien a disparu. Et l'exploitation minière en Australie a fait disparaître des vallées entières. On a décapé la terre, et donc, pour certains habitants, le monde de leur enfance, avec lequel ils ont tissé des liens affectifs, a littéralement disparu. Voilà. Ça, c'est vraiment une souffrance qui exprime que ce sur quoi on s'appuyait n'est plus là. Et on va le différencier du terme d'éco-anxiété, qui va s'appliquer plus à une souffrance en lien avec le présent et l'idée du futur. C'est-à-dire que quand on se projette dans l'avenir, eh bien, toutes ces émotions perturbantes, alors on a parlé de peur, de tristesse, de colère, de culpabilité, de honte, Et puis, il y a tous les états aussi hein, qui peuvent nous traverser en lien avec ça, c'est-à-dire la prostration. Hein, on n'arrive plus à bouger. Le contraire, qui est l'hyperactivité, avec sa conséquence éventuelle qui est l'épuisement. Et puis, ça peut nous amener à la dépression. On trouve aussi souvent une perte d'image du futur, c'est-à-dire que il n'y a plus de représentation de l'avenir dans laquelle on peut s'investir, s'engager, s'imaginer. Et puis bien souvent, il y a l'isolement social, parce que les personnes éco-anxieuses, en fait, ont beaucoup de colère, hein, à la fois contre les autres et contre elles-mêmes, et en général, dans les repas de famille, ça passe assez mal. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle est entendue une fois, et puis au bout d'un moment, il y a un rire, et puis on change de sujet, et la personne se sent isolée, elle a l'impression que c'est le devenir de l'humanité qui est en jeu, et puis en fait elle se sent peu soutenue et elle finit par se replier parfois sur elle-même et n'arrive plus en fait à investir ses relations sociales habituelles. Souvent il y a une perte, pour faire le lien avec le travail, il y a une perte de sentiment de sens, parce que ce travail que je fais là, la personne se dit mais en quoi est-ce que c'est cohérent avec cette nouvelle vision que j'ai de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Voilà. Charline Schmerber, qui est ma collègue psychothérapeute, qui a créé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, elle distingue, on va dire, trois types de personnes éco-anxieuses. Celles qui ont un éveil écologique traumatogène. Alors, je vais tout à l'heure vous proposer une vignette clinique, c'est Agathe, c'est-à-dire c'est soudain, c'est le choc. Il y a vraiment quelque chose, il y a une prise de conscience qui est soudaine, qui est brutale et qui provoque en fait un effondrement pour la personne qui n'arrive plus à vivre au quotidien. Et puis il y a aussi pour certaines personnes qui vont, j'allais dire, se défendre de ces émotions perturbantes en s'engageant dans l'action. Eh bien, une espèce de surenchère d'engagement, parce que le temps est vécu comme l'urgence. C'est l'urgence, tout va s'effondrer. Donc, évidemment, quand on veut défendre la vie, quand on pense que tout pourrait s'arrêter très bientôt, il n'est pas question de se donner à moitié. Les gens se donnent à fond. Tu as parlé de 120%, 150%, etc. Non, c'était Vincent. Et il y a cette situation où, en fait, cet éco-militantisme dure un certain temps, et puis arrive à une situation d'effondrement, de burn-out militant. Et ça, c'est vraiment un deuxième type de profil d'éco-anxieux qu'on voit dans nos cabinets. Et puis une troisième population, on pourrait dire, que Charline appelle ceux qui vivent l'acceptation lucide du monde. Et donc, on pourrait dire que ceux-là, ils ont traversé ce qu'on pourrait appeler la courbe de traverser de l'éco-anxiété, qui est un modèle dont on va parler. C'est juste un modèle théorique, mais qui est appuyé sur la courbe de deuil que vous avez déjà, dont vous avez entendu parler, et qui nous parle finalement de notre capacité à accepter une réalité qui est très dérangeante. Voilà. Alors, tout de suite, je vous dis quelques mots de Agathe. Alors, on l'appelle comme ça, mais évidemment, c'est pas son vrai prénom. L'illustration clinique a été floutée pour respecter la confidentialité de son travail. Elle a environ 30 ans, et quand elle arrive dans mon cabinet, la première séance, elle me dit « Je suis très en colère, stressée, énervée. Parfois, je suis injuste avec les gens que j'aime. Les effondrements écologiques en cours me terrifient. J'ai lu les livres de Pablo Servigne sur l'effondrement. Des milliards de personnes vont mourir. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se réveillent pas. Je ne vais pas avoir d'enfants. Qu'est-ce que je vais faire ?» À ce moment-là, elle pleure beaucoup. Il y a une pause dans sa parole. Elle continue. « Il n'y a pas d'espoir. On n'évitera pas les catastrophes. Je me sens seule avec ça. Ça me dépasse. C'est trop gros pour moi. J'aurais préféré ne pas savoir tout ça. Je suis trop sensible aux gens, aux injustices du monde. Je n'ai pas les clés pour changer de vie. Je voudrais quitter ma ville pour aller à la campagne, mais comment faire ? Je n'arrive pas à voir un avenir. » et elle me fait la demande de l'accompagner pour vivre une transition et en particulier pour trouver un travail qui ait du sens. Parce qu'elle elle s'ennuie dans son travail et puis continuer à y aller tous les jours participe pour elle à un sentiment de honte, en fait. Elle a l'impression d'être... de participer à un monde destructeur, voilà. Et elle se sent coupable de continuer ce travail-là. Alors, on pourrait questionner, par exemple, hein, pour Agathe, son éco-anxiété, est-ce qu'elle est plutôt saine ou plutôt pathologique ? D'abord, comment dire, ce qui nous semble, nous, important, quand on accueille des personnes comme Agathe en psychothérapie, c'est vraiment de valider leurs émotions comme des réponses utiles face à une réalité. Si on regarde en fait un petit peu comment fonctionne l'évolution du vivant, 3 milliards d'années d'évolution du vivant sur la Terre, en général, quand dans une espèce il y a une particularité physiologique ou psychique, c'est qu'elle a été sélectionnée, et donc si elle a été sélectionnée, c'est qu'elle a une certaine utilité. Et ça nous semble important donc de valoriser ces émotions, de les valider, de dire que par exemple, bah oui, la tristesse est utile parce qu'elle nous permet de sentir qu'une chose qui est menacée a de la valeur pour nous. La peur est une émotion utile parce que grâce à la peur, on va pouvoir mieux réagir à un danger. La colère est une émotion utile parce que grâce à la colère, on va trouver l'énergie de pouvoir faire advenir ce qui nous semble vraiment important. Et puis, la culpabilité même, cette émotion-là, ce sentiment de culpabilité, il nous informe qu'on a à s'interroger, peut-être qu'il y aurait une règle humaine qui aurait été transgressée. Donc Vincent de Goléjac, tout à l'heure, il disait « l'émotion, c'est l'horloge de la subjectivité ». Donc, on va les valoriser, ces émotions, et puis... ce que j'aime à penser, c'est que finalement, les éco-anxieux, c'est ceux qui sont capables de sentir comment est le monde aujourd'hui. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, on est en général éco-dissociés. C'est-à-dire que c'est tellement perturbant, ce qui se passe actuellement. Je suis traversé par mon éco-anxiété. J'accueille mon émotion. Que c'est tellement perturbant ce qui se passe en ce moment. Voilà, des années de thérapie pour arriver à accueillir l'émotion, je suis content de ça, vraiment. Qu'on a tendance en fait à se protéger par des mécanismes de déni. Ces mécanismes de déni, ils ont été aussi favorisés par l'évolution, ils ont été sélectionnés aussi, parce que parfois... eh bien, ça nous protège de pouvoir ne pas accueillir nos émotions et donc de pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était. À court terme, le déni nous protège. Mais finalement, moi j'aime valoriser les personnes éco-anxieuses parce que ce sont celles qui sont suffisamment saines pour pouvoir sentir ce qui traverse le monde aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure... c'est vous, Laurence, vous avez cité René Char qui disait « la lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Et ça a résonné avec ça, cette citation. C'est-à-dire que, en fait, cette lucidité de l'éco-anxieux, c'est une blessure. Et je dirais que l'éco-anxieux est plus sain que l'éco-dissocié. Il est capable de ça. Voilà. Alors... on n'est pas forcément dans le champ de la psychopathologie, hein, quand on est donc dans l'éco-anxiété. En fait, je dirais, dans la grande majorité des cas, c'est la barre adaptée qui va dominer. C'est-à-dire que, oui, parfois, il peut y avoir des résurgences de mémoires émotionnelles issues du passé qui vont être réveillées par la situation présente. Et dans ce cas-là, on se trouve dans cette situation complexe où on a une intrication de ce qui appartient au sujet et ce qui appartient au système. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles, qui ont laissé des traces traumatiques, elles sont, prédisposées à vivre des formes d'effondrement psychique quand elles sont au contact de ce qui se dit des risques de l'effondrement dans l'écosystème. Alors, par exemple, pour Agathe, quand je lui demande de me parler de son histoire, elle me dit que lorsqu'elle était adolescente, une personne très proche dans sa famille s'est suicidée. Agathe me dit, après, il fallait fuir mes parents, partir, fuir cette mort. J'ai oublié beaucoup de périodes de mon adolescence, surtout après cette mort. On n'en parle jamais avec mes parents, c'est tabou. Voilà, et quand je l'entends me dire ça, dès la première séance, je fais cette hypothèse. La mémoire traumatique de l'effondrement familial après le suicide a été activée par les annonces sur le risque d'effondrement écosystémique. Cela est favorisé par le fait que la situation traumatique de l'époque, l'adolescence d'Agathe donc, n'a pas été soignée mais surmontée par la fuite et l'amnésie, c'est-à-dire par une dissociation psychique. Alors, je me prépare donc à ce moment-là à accompagner Agathe. Et j'ai envie de partager avec vous que pour ces problématiques particulières qu'amènent les personnes éco-anxieuses, pour nous, praticiens en psychothérapie, ça nous amène à prendre une posture un petit peu différente. Habituellement, le psy reste très réservé sur ce qu'il sent et sur ce qu'il pense pour pouvoir laisser la place au patient, laisser la place d'imaginer, de transférer. Et dans le cas de l'accompagnement des personnes éco-anxieuses, c'est un peu différent parce que ces personnes ont été souvent moquées, ont été souvent mises à l'écart parce que leur parole est perçue parfois comme catastrophiste, dérangeante. Et donc, elles peuvent se sentir en fait stigmatisées. Par exemple, Agathe, elle me dit « Bah, moi, je me sens seule avec ça, être le messager de l'Apocalypse ». On imagine bien dans sa formule être le messager de l'Apocalypse ce qu'elle a pu recevoir. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est utile que le thérapeute valide en fait ses émotions, lui dise « bah oui, en fait, dans cette situation, vu les publications scientifiques du groupe international sur l'évolution du climat, il est adapté, c'est normal que vous ressentiez ces émotions de peur, tristesse, colère. » Cependant, avec Agathe, je choisis d'interroger ses croyances. Parce que peut-être avez-vous noté, dans tout ce qu'elle dit dès la première séance, que eh bien, pour elle, l'effondrement, c'est un risque perçu comme certain, immédiat. Ça va se passer brutalement et total. C'est-à-dire que ça va être voilà, la fin. Et cela, en fait, c'est Edgar Morin qui disait que ce serait plutôt dès effondrements qui vont affecter notre écosystème, cela donc relève de croyances. Et donc c'est compliqué d'arriver à démêler la réalité des bouleversements en cours et ce que nous pouvons projeter dessus avec des idées, des images du futur où il va y avoir une certaine radicalité qui va arriver. Et plus cette radicalité est là, plus en tant que clinicien, j'ai une petite lumière orange qui clignote là et qui me dit bah voilà, là il y a peut-être une sorte de projection du monde interne sur cet écran que constitue la situation écologique présente et qui va servir à exprimer en fait des émotions qui appartiennent à la personne. Sans tomber dans une simplification binaire, ça vient que du dedans ou ça vient que du dehors, on a à cheminer avec cette complexité, avec cette intrication. Alors comment on chemine ? Eh bien, moi je ne choisis pas de décider, voilà, on va travailler sur le présent, on va travailler sur le passé. J'accompagne en fait le processus d'Agathe, je fais confiance à la dynamique psychique d'Agathe. Et ce qui apparaît en premier lieu, c'est qu'elle a besoin de retrouver de la sécurité. Et elle me dit d'ailleurs, hein, pour pouvoir bouger les lignes, j'aurais besoin d'une vie intérieure plus apaisée. Et en s'inspirant peut-être de cette fameuse pyramide de Maslow, on va travailler sur la base, c'est-à-dire comment elle peut retrouver de la sécurité. Et là, il y aura notamment un moment où, allongée, elle va visualiser un lieu de sécurité dans un endroit de nature. Et plus tard aussi, elle dira « Je reste loin des infos, c'est anxiogène, elle filtre davantage. » J'étais en contact tout à l'heure avec mon superviseur qui m'expliquait que quand notre cerveau est trop exposé à des informations, à une trop grande quantité d'informations, il perd la capacité de les traiter. Et à ce moment-là, cette saturation cognitive va entraîner qu'on va réagir plutôt avec des émotions, et plutôt avec des émotions binaires, assez radicales. Ça m'a fait penser à ce que disait le philosophe Paul Virilio depuis quelques décennies déjà. C'est-à-dire que là où avant, en fait, nous, citoyens, on était, empêchés de penser à cause de la censure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'informations, aujourd'hui, les recherches en sciences cognitives montrent qu'on est empêché de penser à cause d'un trop d'informations, à cause d'une surexposition médiatique qui provoque une charge cognitive qui fait qu'on a toutes ces infos absolument terrifiantes et on ne sait plus quoi en faire. Et donc cette capacité à filtrer, c'est-à-dire à réduire en fait le temps qu'on va passer devant des vidéos ou des articles qui parlent de l'écosystème, cette capacité à filtrer, pouvoir moins s'exposer à ça, mais rester dans sa fenêtre, je dirais, de tolérance émotionnelle et conceptuelle, de charge conceptuelle, ça va nous permettre de pouvoir, créer notre pensée à partir de cela sans être submergé. Donc il y a vraiment un apprentissage là, pour Agathe, de cette capacité de filtrer les informations. Je ne me rends pas compte où j'en suis dans le temps. Ça va ? Ok. Bon, je suis dans la quatrième et dernière partie. Alors, il y a aussi l'accueil de l'émotion tristesse. Là, c'est vraiment la courbe de deuil. En fait, c'est vraiment l'acceptation d'une réalité perturbante. Alors, évidemment, pour Agathe, ça va résonner avec toute la tristesse qui remonte d'elle-même en lien avec les mémoires émotionnelles du suicide d'une personne proche d'elle qu'elle a pas pu surmonter à l'époque. Mais il y a aussi que, elle vit l'acceptation, finalement, non pas que la vie va s'écrouler, mais que le monde tel qu'elle le connaissait auparavant, eh bien, oui, disparaît. Et là, c'est vraiment un déplacement de l'objet du deuil qu'elle va vivre, c'est-à-dire que là où auparavant c'était c'est terminé pour la vie, elle évolue, elle se rencontre, notamment lorsqu'on fait un travail sur le temps long, quand on regarde 3 milliards d'années en tout cas pour le vivant, il y a eu 5 extinctions de masse et la vie a continué en fait. Donc ce qui risque de se passer, c'est simplement la disparition de l'humanité. Pas du vivant, puisqu'il y aura au moins des bactéries qui vont repartir à partir des océans. Ça peut faire rire de cette relativisation, mais c'est déjà cette possibilité d'avoir un regard sur le temps très long de la planète Terre, c'est déjà la possibilité de se situer différemment par rapport à la menace qui est là. Et donc, elle se rend compte que progressivement, elle intériorise. Parce qu'elle fait un travail sur les mémoires émotionnelles de son adolescence, elle arrive à mieux différencier, en fait, l'effondrement familial du passé et les risques d'effondrement écosystémique à venir. Et elle voit qu'il y a des bouleversements qui sont en cours, que le monde qu'elle a connu ne sera plus, mais la nature du deuil est en train de se transformer. Et puis il y a la colère. Il y a la colère, et dans le travail sur la colère, ce qui est vraiment passionnant, c'est que, alors que c'est une émotion qui est vraiment réputée, elle est mal aimée souvent, la colère, il ne faut pas être en colère, ça dérange, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là où Agathe, elle dit non à la maltraitance, quand on interroge quel est le oui qui se cache à l'intérieur de ce non à la maltraitance, en fait, il est motivé par un oui à quoi ? Elle, ce qu'elle veut, eh bien, c'est la justice. Et en fait, elle s'approprie cette énergie créatrice et elle arrive à accueillir sa colère comme une énergie qui va l'emmener de l'avant. Et puis, j'écoute aussi ce que Agathe dit à propos de sa culpabilité. Et à propos de la personne suicidée, Agathe dit « Je ne me sentais pas légitime d'aller bien, sachant que lui, il n'allait pas bien du tout. » Et donc, à nouveau, pour elle, il y a cette intrication entre une situation du passé où il y a la culpabilité d'aller bien, alors que ça va mal au dehors, et puis la situation du présent. Et ça, beaucoup de personnes éco-anxieuses me le disent. Comment c'est possible, je dirais, d'être heureux, hein, dans un monde où il y a autant de menaces, voilà. Cela résonne avec la souffrance qu'elle perçoit aujourd'hui dans l'écosystème naturel. Si sa culpabilité la poussait quelque part, ce serait dans une transition concrète pour se sentir à nouveau fière d'elle-même, avoir à nouveau le droit de se sentir heureuse. Voilà. Et là, il y a un moment où je vais m'appuyer sur cet outil dont je dispose en psychothérapie, qui est, on pourrait dire, l'éco-psychothérapie, c'est-à-dire la possibilité pour certains patients, à certains moments de leur processus, d'aller proposer une séance itinérante au parc ou en forêt. Et ce qui est marquant avec Agathe, c'est que c'est une jeune femme de la ville. Et elle est dans une dissociation douloureuse parce qu'elle se dit « Mais moi, je voudrais vivre à la campagne, mais je suis nulle avec la terre, j'y connais rien, je sais pas faire. » Et puis, effectivement, elle y va pas beaucoup, en fait. Il y a une dissonance cognitive très forte entre ce qu'elle voudrait être et puis ce qu'elle parvient à être. Et donc, cette séance au bois, bah, pour elle, c'est assez nouveau. Je lui propose de choisir un chemin, c'est un peu la métaphore du discours dans la séance de psychothérapie, c'est créer un chemin, non pas seulement de verbe, mais aussi du corps qui se déplace dans l'espace naturel. Et elle dit je ne sais pas choisir, je suis incapable. Et là, je lui propose dans un premier temps de retrouver le contact avec les cinq sens, avec le corps, avec l'air, la peau, etc. Et puis de faire confiance à ce qui vient. Elle m'indique finalement un chemin, et puis quand je lui propose de laisser venir quel arbre pourrait peut-être ressembler un petit peu à qui elle est, elle me montre un arbre qui a trois troncs, et là, eh bien, elle me montre que ces trois troncs, c'est comme trois parties d'elle-même. Alors, voilà, il y a un gros tronc qui est recouvert de lierre, elle dit « c'est ma partie en colère ». Il y a un tronc plus mince dans cet arbre, c'est sa partie qui s'adapte, dit-elle. Et puis il y a un tronc aussi plus jeune et plus fragile, elle dit « c'est la partie de moi qui peut vivre quelque chose de nouveau ». Et à ce moment-là, je lui propose d'essayer de voir si elle peut arriver à rentrer en contact avec ces trois troncs simultanément. Et donc son corps rentre dans une forme qui lui permet de créer ce contact-là. Elle ferme les yeux et elle vit un moment de silence. Et quelques minutes après, en fait, son regard s'est transformé. Elle a la sensation qu'elle est capable de vivre un contact qui lui fait du bien avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour elle, ça représente à la fois différentes parties d'elle-même et ça représente aussi un être vivant avec lequel elle est capable de se relier. Donc, dans cette expérience, elle vit, je dirais, deux intégrations, une intégration au dedans et une intégration au dehors. C'est après cette séance qu'elle va dire qu'elle va oser finalement faire ce stage de woofing, c'est-à-dire dans un établissement agricole. Elle ne se pensait pas capable et finalement, elle va y aller. Et je vais aller vers la conclusion de mon intervention, là, pour ne pas être trop long, mais finalement, grâce à ce stage, elle se relie à des réseaux de personnes engagées dans une transition, à des éco-initiatives. Elle arrive à imaginer d'autres scénarios du futur. Et puis, elle arrive à intégrer cette espèce de hiatus qu'elle avait entre « mais moi, je suis à la ville, je ne pourrais jamais vivre à la campagne ». Elle commence, en fait, par une petite... elle fait un petit pas. Hein. Elle a un contrat qui dure quelques temps seulement. Et elle prend soin, à ce moment-là, je dirais, de son écologie intérieure. Parce que c'est ça qu'on essaye vraiment de soutenir quand on accompagne les personnes éco-anxieuses, c'est de ne pas tomber dans le burn-out écologique et d'avoir finalement cette ambition avec le dedans de bien-traitance et de créer un lien harmonieux autant qu'avec le dehors. C'est le philosophe norvégien Arne Næss qui parle d'écologie profonde et qui a cette ambition... que j'aime beaucoup, qui est de finalement créer une relation harmonieuse, non seulement à l'intérieur de soi, avec les autres humains et avec notre écosystème. Et si on n'est pas dans ces trois niveaux-là simultanément, eh bien, on est dans un processus qui n'est pas complet dans la perspective de l'écologie profonde, en tout cas. Voilà. Et puis, enfin, ce qui me semble, comment dire, important aussi, c'est que la personne puisse faire le deuil de convertir son entourage et de pouvoir accepter de témoigner de ce qu'elle vit, de comment ça peut lui faire du bien d'avoir changé de vie, d'avoir éventuellement trouvé un travail plus en accord avec ses convictions, témoigner sans essayer d'être un militant, de convertir. Ou alors, si on reprend les mots de Michel-Maxime Heger, d'être un méditant militant, un méditant militant, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une pratique interne, en fait, de connexion avec le vivant, et qui va finalement plus diffuser ce qu'il vit par un état d'harmonisation que par des paroles qui vont essayer de convertir les autres. Voilà, et pour conclure le cheminement d'Agathe, peu après son retour du stage, elle me dit « Je veux réunir les parties de moi, comme l'arbre que j'avais choisi dans la forêt. J'ai l'idée d'un métier au contact de la nature et des humains. » Et en fait, ce qui va finir sa courbe de deuil, sa courbe d'éco-anxiété, c'est qu'elle va créer du sens. Elle va dire « Ces effondrements sont là pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. » Voilà. Merci.
Alors, je vous remercie vraiment tous les deux, et merci aussi pour ce moment d'émotion partagé avec nous. C'est une marque de confiance, et je tenais à vous dire merci.
Merci.
Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de vous faire réagir et interagir entre vous deux.
Dans quelle mesure la question de l'éco-anxiété n'a pas à voir aussi avec l'injonction contemporaine à être l'entrepreneur de son existence? C'est-à-dire que on sait que depuis la deuxième partie du XXe siècle, on ne peut plus se projeter dans l'avenir à partir de ce qui nous a précédé. Il faut inventer sa propre trajectoire. Ce qui fait que ça nous donne des gains de liberté, et en même temps, ça surresponsabilise l'individu avec tout ce que ça fait porter comme difficulté chez chacun d'entre nous. L'injonction à l'excellence, dont parlait aussi Vincent, enfin, tout ça sont des choses qui accompagnent la modernité avancée. Et dans quelle mesure, du coup, ces phénomènes de pression sur l'individu contemporain ne renforcent pas les phénomènes d'éco-anxiété où, par nature, on a la maîtrise individuelle qu'on peut avoir sur ces phénomènes macroscopiques est relativement faible. Donc ça, c'était ma première réflexion. Et la seconde, c'était dans quelle mesure aussi, cette éco-anxiété, elle est aussi peut-être la marque très anthropologique de la question de l'angoisse de mort. Quelqu'un disait tout à l'heure, on ne va pas tous disparaître. Si, on va tous disparaître. C'est notre nature de mourir un jour. Et la conscience qu'on a de cette finitude est profondément anxieuse, et on a besoin d'avoir des moyens de défense par rapport à ça. Et il me semble que ces moyens de défense, ils sont enfoncés par cette situation écologique actuelle.
Mon écho, c'est que, disons que ce qui nous angoisse, ce qui nous préoccupe, c'est que, par exemple, chez nous, les différences sociales sont si grandes. Les problèmes sociaux, non pas personnels, sont si écrasants qu'on ne peut pas rester simplement à une préoccupation. Je ne crois pas que ce soit non plus la vôtre, simplement une préoccupation de type individuel, d'être bien avec soi, d'être bien dans sa peau, etc.
Oui, ça me paraît vraiment juste. Dans l'exemple d'Agathe, c'est vraiment, elle rejoint en fait des groupes de personnes qui expérimentent d'autres façons de vivre, plus proche de la terre, plus proche du vivant, et elle rentre dans une nouvelle dynamique. Et effectivement, je pense que seul l'individu est écrasé en fait par l'ampleur des enjeux. Hein. Et c'est très juste de mettre l'accent sur la nécessité de ces réseaux. Moi je dirais de préférence locaux, parce que bon, avec Zoom maintenant on peut aussi être en réseau avec plein de groupes qui sont passionnants autour de la Terre, mais ça ne remplace pas le lien avec un réseau local de personnes qui ressentent, qui ont cette empathie et aussi qui partagent cette envie de vivre de la transition, et avec lesquelles il y aura des choses concrètes qui vont se vivre. Donc ça, c'est vraiment une des grandes ressources pour la traversée de l'éco-anxiété, en effet. Hein. C'est d'arriver à refaire du commun autour de soi, là où on se sent isolé. Et puis aussi, je voulais juste vous dire, monsieur, je ne connaissais pas cette topic rupture, transition, intégration, mais je la trouve passionnante, parce que c'est vraiment, ça rend bien compte hein, de ce que nous disent la plupart des personnes éco-anxieuses. À un moment donné, il y a une rupture dans les représentations du monde et de soi, hein, qui peut se traduire par un effondrement ou pas, mais l'entrée dans le processus de transition est déjà un progrès, et il y a plein d'étapes pour ça. Et à la fin, c'est l'intégration, c'est-à-dire c'est vraiment accepter la lenteur de son cheminement, se réunir avec des parties de soi, intégrer aussi ses voisins, accepter la lenteur du rythme de mon voisin, et arrêter de le détester parce qu'il ne va pas aussi vite que moi. Et puis cette intégration de, comment dire, de tout le vivant dans le champ de la conscience, quoi. Donc je trouve que ce modèle parle bien des processus de transition écologique.